On poursuit cette soirée spéciale avec un hommage à Boris Vian, signé Pierre-Charles Boisdin, Cracher sur ma tombe.
Boris voulait pas crever. Boris voulait vivre vivant. Boris voulait vivre Vian. Boris Vian voulait pas crever. Boris voulait pas crever. Boris voulait vivre vivant. Boris voulait vivre Vian. Boris Vian voulait pas crever. Il dansait la java des bombes atomiques. Il dansait comme moi, une sorte de salsa hystérique. Boris voulait pas crever. Boris voulait vivre vivant. Boris voulait vivre Vian. Boris Vian voulait pas crever, crever, crever. Gérald Gentil le remplaça. Il écrivit des chansons humoristiques. Mais tout le monde à Bobby Lapointe pensa, car il est plus comique que sarcastique. Boris voulait pas crever. Boris voulait vivre vivant. Boris voulait vivre Vian. Boris voulait pas crever. Boris voulait vivre vivant. Boris voulait vivre Vian. Boris Vian voulait pas crever. Voulait pas crever. John, le trompettiste, le remplaça. Il jouait du jazz contemporain. Mais tout le monde, soudain, oublia que John comptait pour rien. Boris voulait pas crever. Boris, pas crever. Boris, crever. Boris, Boris, Boris. Comme je me rendais à la piscine Molitor, je pensais à ce cher Boris Vian. Je sais que j'avais certainement tort de me croire un baigneur trompettiste déviant. Comme je sautais du pont de l'Alma, je pensais encore et toujours à moi. Je pensais que rien n'allait s'arranger. Je ne serais que pour moi-même un étranger. J'irai cracher sur ma tombe pour détester et dire à la face du monde ma façon de partir précipitamment au fond du précipice. Et oui, c'est comme ça que je mens. Comme je jouais mal de la trompette, je décidai de me mettre à la batterie pour battre la peau tendue d'une starlette, à moins de lui caresser la peau, tu ris. Comme cette fille était amoureuse, je la prévenais que la fin était proche. Fin certainement heureuse, puisque notre vie était moche. J'irai cracher sur notre tombe pour dire à la face du monde ma façon dont j'ai aimé les femmes, même si ça ressemblait à un drame. Comme j'avais horreur de la foule, quand je jouais de la batterie, je tournais le dos au public qui se défoule. Pour mieux l'éviter, je le contournais. Comme j'avais horreur du sabre et du goupillon, quand on me porterait en terre, j'avais juré que nous ririons sans curer et sans grader de cette mise en bière. J'irai cracher sur la tombe à Boris pour prouver. prouver qu'il est plus vivant que mort. Comme un dernier hommage à cet homme sans âge. Boris vivant, Boris mort, Boris Vian est-il mort ?
J'irai cracher sur la tombe à Boris pour prouver qu'il est plus vivant que mort. Boris vivant, Boris mort, Boris Vian est-il mort ? Boris jouait de la trompette, fût-elle de la mort, Boris n'en faisait qu'à sa tête et n'en tirait aucun remords. Boris jouait de la trompette, trompait la mort, pour lui et ses amis, et c'est ça qui est chouette, et ceux qui s'en privaient avaient bien tort. Boris jouait du jazz dans les boîtes rive gauche et ça n'avait rien de naze, personne ne se sentait moche. Boris reste toujours vivant et les Java des bombes atomiques sont toujours présentes dans notre monde cynique. L'écume des jours caresse nos pieds, mais cette écume est franchement polluée, on parle partout d'environnement. On le respecte nulle part, évidemment. Boris Vian et ses potes sont bien vivants. Croyez-moi, et même si tout fout le camp, il faut y croire fermement, car la morosité n'est pas de mise vraiment. Boris Vian, moi à moitié mort, il est temps de réagir, sortir dehors. Boris Vian, moi à moitié mort, il est temps de leur donner tous tort.
Boris Vian, moi à moitié mort, il est temps de réagir, sortir dehors. Boris Vian, moi à moitié mort, il est temps de leur donner tous tort.
On sait que Boris Vian n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Ni les pieds, ni la tête, ni les chaussettes à clous. Farceur comme il était, il ne faut pas le croire lorsqu'il écrit, ayant terminé l'écume des jours, Memphis 8 mars 1946, Davenport 10 mars 1946, comme s'il avait terminé son roman lors d'un voyage en Amérique. Par contre, il connaissait très bien les États-Unis, parlait l'anglais, était bien sûr passionné de jazz, jouant à la Libération avec l'orchestre de Claude Abadie pour les GIs américains, appréciant particulièrement l'écrivain William Faulkner et traduisant pour la série noire de nombreux romans. Retour sur un livre qui fit scandale, J'irai cracher sur vos tombes avec Guy.
Radio PFM n'est même pas encore en gestation. Il faudra attendre 35 ans avant qu'elle apparaisse sur les ondes libérées. Faut dire que c'est le pays qui vient d'être libéré. Celui qui vous cause en ce moment même n'est pas prêt de biberonner. Encore 14 ans à attendre avant de pouvoir exprimer ses premiers émois. Il faudra aussi attendre 20 ans avant que Johnny ne chante Noir c'est noir. Et surtout, chères auditrices et chers auditeurs, il vous faudra attendre encore 48 ans avant de pouvoir écouter sur Radio PFM mes premiers blabla consacrés au roman noir. Nous sommes le 8 novembre 1946 et cette chronique Noir c'est noir est, selon mes calculs, à raison d'une bonne trentaine de chroniques par an, cette chronique est la numéro moins 1335. Nous sommes le 8 novembre, vendredi 8 novembre 1946. Et oui, c'est comme ça, Noir c'est noir sur PFM, c'est le vendredi. Et c'est d'un livre tout frais sorti de l'imprimerie ce matin même dont je vais vous causer. C'est un livre et c'est une claque. Il y a déjà le titre, J'irai cracher sur vos tombes. Faut vous dire que des tombes de nos jours, c'est pas ce qui manque. Faut vous dire aussi que c'est un Américain qui a écrit ça, Vernon Sullivan. Les Amerlocs, ils ont beau nous avoir libérés, ils sont quand même un peu spéciaux, comme leur musique là, avec des Noirs qui jouent de la trompette, le jazz. Question bouquin, c'est pareil. C'est pas des noirs qui écrivent, à part un ou deux peut-être, mais surtout, il y a toute une flopée d'écrivains blancs, donc, qui écrivent des romans noirs. Il y a même les éditions Gallimard, du sérieux donc, qui viennent de créer une collection spécialement pour eux, la série noire. Le quatrième volume vient d'ailleurs de sortir. Un linceul n'a pas de poche, vous apprécierez le titre. Un linceul n'a pas de poche, de Horace McCoy. J'irai cracher sur vos tombes n'est pas un roman série noire, peut-être encore trop subversif pour les débuts d'une collection qui reste prudente. Ce sont les éditions du Scorpion qui le publient. Et il y a du venin dans ces quelques 200 pages. Le venin de Lee Anderson est surtout celui de la société qui lui a inoculé une bonne dose de compte à régler. J'irai cracher sur vos tombes est un roman noir, ça vous le savez, puisque vous écoutez Noir c'est noir. Son auteur, quand je vous disais que ses écrivains américains étaient du genre tordu, n'a pas choisi la simplicité puisqu'il met en scène un personnage noir-blanc, un nègre blanc. Pour être précis, Lee Anderson est un octavon. Faudrait d'ailleurs peut-être le dire à Monsieur Boris Vian qui a traduit ce livre. Il faudrait donc lui dire que c'est comme ça qu'on dit. Un octavon est un métis qui possède un huitième de sang de couleur et le reste de sang blanc. Oui, je sais, le sang est rouge, mais c'est écrit comme ça dans mon dictionnaire. Lee Anderson a du sang noir qui coule dans les veines, mais sa peau est blanche. Ce qui n'était pas le cas de son jeune frère. Pas plus de noir dans le sang, mais la peau, oui. Il a fini lynché et pendu simplement parce qu'il avait des visées sur une jeune femme blanche. Ça se passe souvent comme ça aux États-Unis. Lee Anderson ne s'en remettra pas et va imaginer une vengeance diabolique. Je ne vous fais pas le détail, je risquerai d'être censuré. Mais voilà un livre qui devrait défrayer la chronique et peut-être même poser quelques problèmes à son auteur. Tout d'abord parce que c'est gonflé de jeter pareil regard sur la société de ceux qui viennent de nous libérer, une société où vaut mieux être blanc et blanc immaculé. Ensuite, dans le pur style des auteurs dits « hard-boiled », les durs à cuire de la machine à écrire, Sullivan ne tourne pas autour du pot. Il décrit très abruptement des scènes pas vraiment jolies jolies. Dans « J'irai cracher sur vos tombes », il y a de la vie et donc du sexe, mais aussi de la mort. Je vous laisse juge tout en étant convaincu que ce livre ne vous laissera pas insensible. Je vous laisse juge en espérant que nos juges ne restent que des lecteurs. J'irai cracher sur vos tombes de Vernon Sullivan aux éditions du Scorpion, une littérature de choc au service d'un plaidoyer antiraciste. Un petit mot à mes auditrices et auditeurs de 2009. Boris Vian sera mort depuis 50 ans. C'est lui qui figurera sur la couverture de « J'irai cracher sur vos tombes quand vous m'écouterez ». Vous le savez, c'est lui qui a écrit ce roman. Pour la petite histoire, il l'a écrit en 2 semaines, il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis et il a été condamné pour outrage aux mœurs. Même si Vian le considère comme mineur, « J'irai cracher sur vos tombes » sera un classique de la littérature française d'après-guerre. Une œuvre dans l'œuvre de celui en qui Jean-Bernard Pouilly verra un graphomane multifonction, celui pour qui, un jour, il y aura autre chose que le jour. Bonne lecture à toutes et à tous, avec mes salutations les plus arrache-cœur.
Eh bien, nous allons encore rester quelques instants aux États-Unis, puisque dans l'après-guerre, il n'y a pas que le jazz qui est venu des États-Unis, aussi le rock'n'roll. Je repasse la parole à François, donc pour une chanson rock signée Boris Vian.
Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est Michel Legrand qui aurait ramené les premiers disques de rock'n'roll des États-Unis et qui les aurait fait écouter à Boris Vian, qui a eu l'idée de faire des rock'n'roll français, typiquement français, pas des traductions, mais des rock'n'roll originaux français. Ce furent les premiers rock'n'roll originaux français qu'il a fait avec Henri Salvador, et ils ont été chantés par Henri Salvador, qui avait pris le pseudonyme de Henry Cording, et puis l'orchestre c'était conduit par Mick Bike, en fait, qu'on veut changer les lettres, et ça vous fait Big Mike, Michel Legrand. Bon,
d'accord.
Voilà. Donc, un de ces rocks-là a été enregistré en 1956 par Magali Noël. Et Magali Noël est une interprète fondamentale de Boris Vian. Elle a toujours été fidèle à Boris Vian dans toute sa carrière discographique. Et celui que vous allez entendre est assez olé olé un peu sur les paroles pour l'époque. Pour l'époque, bien entendu. Alors, ils ne savaient pas trop si ça allait passer, si ça allait pas attirer les foudres de la censure. Moyennant quoi, ils l'ont noyé un peu dans un grand disque, ils l'ont noyé dans des instrumentaux. Et le grand disque s'est vendu, il n'y a pas eu de réaction. Du coup, ils ont ressorti les quatre rocks de Magali Noël dans un 45 tours. Alors, vous allez entendre Strip Rock, c'est Magali Noël qui chante et écoutez bien la chute.
Ma chemise s'envole, trois petits papés, ma chemise est envolée. Et l'amour, arrête-toi, et fais-nous voir ça, fais-nous voir tout ça, depuis le haut jusqu'en bas.
Si vous m'offrez quelques diamants, j'accepte d'enlever mes gants, je sais que j'ai la peau douce. Dans des tas de petits coins, je sais que j'ai des vraies sœurs et que je suis une vraie rousse. Je sais ce que vous voulez, mais si vous prenez, payez. Prenez par les sentiments, vous me ferez perdre mon temps. Je veux bien retirer mes fourrures, vous verrez mon décolleté. Je veux bien ôter mes chaussures, c'est plus comme un tour danser. Je veux bien défaire ma ceinture, mais c'est tout ce que vous aurez.
Allez, et là.
Maintenant que j'ai commencé, tant pis pour vous, faut y passer. Je vais dégrafer le reste, et tant pis pour la pudeur. Je vais achever d'un geste de vous dévoiler mon cœur. Je vais prouver sans conteste que tout est à la hauteur. Le porte-jarretel, les bas de nylon, le soutien-gorge noir.
Et voilà qui soudain. Sans prévenir personne,
oui.
Le projecteur s'éteint.
Oh, ben on n'est pas vernis, les gars.
Alors, c'est dommage qu'à l'époque il n'y avait pas de clip, sinon on aurait pu voir la très belle Magali Noël nue. Nous allons terminer cette spéciale de Boris Vian, puisqu'il faut bien la terminer avec quelqu'un. Il a cet honneur, on va dire. Nous terminons donc avec une création sonore organique de Boris Guyot, réalisé dans le cadre de l'atelier radio créatif de PFM. Donc un travail inspiré par une des nouvelles du recueil de Boris Vian, donc le recueil Les Fourmis, et ça s'appelle Les Poissons Morts.
Il attendit que le silence revienne et écouta attentivement, puis siffla doucement. Sans se retourner, il pénétra en rampant dans la niche et se recroquevilla sur la paille malsaine. Il siffla de nouveau, puis prêta l'oreille. Des pas légers et menus s'approchaient, et à la lueur pâle de la terre, il aperçut sa chose vivante qui venait le retrouver. C'était une chose vivante, douce et velue, apprivoisée, qu'il nourrissait tant bien que mal avec des poissons morts. Elle entra dans la niche et se coucha contre lui. Il se rappela tout à coup et porta la main à sa joue. Les trois timbres commençaient à lui sucer le sang, et il les arracha brutalement, se retenant pour ne pas crier. Il les lança loin de lui, en dehors de la niche. L'humidité du sol les conserverait sans doute jusqu'au lendemain. La chose vivante se mit à lui lécher la joue, et il lui parla pour se calmer. Il lui parlait à voix basse, car son patron utilisait des systèmes pour l'écouter quand il était seul.
« Il m'ennuie. »
La chose vivante fit un doux murmure et le lécha de plus belle.
Je ne pense pas que je devrais faire quelque chose. Ne pas me laisser maltraiter. Mettre des chemises propres malgré sa défense et avoir de phobies en bois. Et puis, réparer le filet et l'empêcher de percer des trous. Je pense que je devrais refuser de coucher dans la niche et exiger ma chambre et demander. demander de l'augmentation parce que je ne peux pas vivre avec 50 francs par jour et aussi engraisser et devenir très robuste et très beau. Et me révolter sans qu'il s'y attende et lui jeter une brique à la figure.
Je pense que je ferai. Il changea de position et réfléchit avec une telle intensité que l'air de la niche sortait à grandes saccades par l'ouverture arrondie et qu'il n'en restait plus assez pour respirer à l'intérieur. Il rentrait un peu par les fentes, sous le sol de la niche, à travers la paille, mais cela augmentait encore l'odeur de cancrelat à laquelle se mêlait maintenant l'arôme désagréable des limaces en chaleur.
Je n'aime pas cette niche. Il fait froid. Heureusement que tu es là. Il y a des bruits dans la cave. C'est l'eau qui entre dans les trous à rats. On ne peut pas dormir avec des hurlements de rats dans les oreilles tous les soirs, que le bon Dieu éteint. Pourquoi veut-il à tout prix tuer ces rats et les tuer avec de l'eau? On tue les rats avec du sang.
La chose vivante ne le léchait pas. Il l'apercevait de profil sur le fond gris de la terre lumineuse, avec son fin museau et ses oreilles pointues, et ses yeux jaunes qui reflétaient quelques éclairs froids. Elle tourna sur elle-même, cherchant une place commode, et se nicha contre lui, le nez sur ses cuisses.
J'ai froid.
Il se mit à sangloter silencieusement. Ses larmes glissaient sur la paille, dont s'élevait une légère vapeur, et le contour des objets devenait vague.
Réveille-moi demain matin. Il faut que je reporte ces trois timbres. Oh, pourvu qu'il ne me donne pas un billet faux pour le train.
Il y eut un vacarme lointain, puis des chuintements aigus et des bruits de galopade menus.
Oh, ça y est, il recommence avec les rats. Je voudrais qu'il soit un rat. Je tiendrai le tuyau moi-même. J'espère qu'il me donnera mes 50 francs demain soir. J'ai faim. Je mangerai un rat vivant.
Il serrait son ventre à deux mains et pleurait toujours. Et puis le rythme de ses sanglots se ralentit peu à peu, comme une machine s'arrête. Et son corps tout tordu se détendit. Ses pieds passaient par l'ouverture de la niche, et il dormait, la joue appuyée sur la paille malodorante. Dans son ventre vide, cela faisait un bruit de gravier.
C'est what? C'est what? C'est what? C'est what? I woke up from this dream. Huh? Well, it was more like a nightmare. I didn't really know where I was. Huh? Wait a minute. There are all these people in the streets. It was some kind of protest. I didn't know what was going on. I couldn't believe the eyes. Their eyes were full of tears, huh? Huh? There was sadness. Huh? They had been hurt. The feeling of the people. It was so beautiful to see the people come together again. Huh? For something that they believed in. At the same time, the situation, the events that brought them together. Where are we going? What is this?
We saw some blood. We tried to help him. We were trying to help him. And the next thing I know, blood was all over me. What? People around everywhere. Oh my God. Oh!
Voilà, cette émission spéciale Boris Vian est terminée. Alors, je voudrais remercier très chaleureusement François Bellard, donc de l'association Didouda et également de Radio Scarpe Sensé, qui est venu en voisin, donc nous faire entendre ou découvrir et découvrir des chansons inédites de Boris Vian. Remercier également très chaleureusement Nico qui a assuré pendant 2 heures toute la réalisation technique de cette émission. Merci à toi Nico. Et puis remercier ceux qui ont participé, donc les compagnies à livre ouvert et les Tréteaux d'Artois, ainsi que les membres de l'atelier radio créatif de Radio PFM, qui est bienvenu à des nouveaux membres si vous avez envie de venir nous rejoindre. Donc Nicolas Bunier, Boris Guyot, Pierre-Charles Boisdin et moi-même. Voilà, on se quitte avec la trompinette de Boris Vian.